VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 19 octobre 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, en RCA, près de 30 personnes ont perdu la vie lors des affrontements dans le sud-est du pays. Au Kenya, Raila Odinga estime qu'il est encore temps de faire des réformes qui pourraient l'amener à reconsidérer sa participation à la présidentielle. En Côte d'Ivoire, Fatou Bensouda affirme que la CPI traduira en justice les principaux responsables des violences post-électorales.
Tous les rapports en général de toutes les ONG internationales sur la Côte d'Ivoire montrent que les deux parties en conflit ont posé des actes d'injustice, d'exactions et de crimes contre l'humanité.
Le professeur Christophe Kwame, dans notre partie magazine Cameroun, la tension persiste dans la partie anglophone malgré le lancement par le gouvernement d'une série de concertations. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pinault pour les sports et Iki Abadou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En RCA, près de 30 personnes ont été tuées hier dans le sud-est du pays. La localité de Bombolo a été le terrain d'affrontement entre les anti-Balaka et l'UPC. À Bangui, la MINUSCA assure que des dispositions sont en cours pour protéger la population. Correspondance de Freeman Sipila.
Mercredi matin, des anti-Balaka en nombre important ont pris d'assaut la localité de Pombolo, située à plus de 5 km à l'ouest de Bangassou. Après plusieurs heures de rue de combat avec les éléments de l'UPC, un groupe armé majoritairement peuple, le village serait passé sous contrôle des anti-Balaka. Des sources locales parlent de près de 30 morts pour la plupart des civils et d'une cinquantaine de blessés. Confirmant les combats, la MINUSCA, la force de l'ONU, assure avoir dépêché ses soldats sur place pour protéger la population. Vladimir Montero, son porte-parole.
Les premières informations font état de violences d'une grande ampleur qui auraient coûté la vie à plusieurs innocents civils. La MINUSCA fera tout pour mettre fin à ces violences et faciliter l'accès aux blessés. Et à cet effet, la MINUSCA a déjà envoyé un hélicoptère et il a envoyé des soldats depuis Bangassou vers Pombolo parce que nous ne disposons pas de présence de casque bleu à Pombolo.
Il est difficile pour le moment de dire avec exactitude ce qui s'y passe. À Bangui, les autorités n'ont pas encore commenté cette nouvelle attaque, intervenue une semaine après celle de Kimbe, provoquant la mort d'une vingtaine de civils. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Toujours en RCA, 5 ONG humanitaires internationales se sont alarmées aujourd'hui à Paris du chaos qui règne dans le pays. Un pays qui, disent-elles, s'enfonce dans une crise majeure sécuritaire et humanitaire. Avant la venue du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le pays, du 24 au 27 octobre, ces ONG ont également exhorté l'ONU à clarifier le mandat de la MINUSCA, qui devrait en principe être renouvelé en novembre. Par ailleurs, un travailleur humanitaire centrafricain est porté disparu depuis mai 2017 dans le sud-est de la Centrafrique. L'humanitaire, membre de l'ONG Espérance, assistait le 25 mai à une inauguration dans la ville de Mobaï quand il a disparu. Ce 19 octobre, Lomé a présenté une triste mine au moment où les forces de l'ordre règnent à maître sur des routes désertes. Les populations se morfondent chez elles. Le point avec notre correspondante, Kayi Lawson.
Les rues de Lomé étaient désertes ce jeudi 19 octobre. Fuyant la terreur, les populations ont préféré se terrer chez eux. Les quelques rares jeunes qui s'y aventurent sont sérieusement molestés par les corps habillés. Ces derniers menacent même de s'en prendre aux journalistes. Au rond-point du grand contournement avec le boulevard Malfa Kassa à Dakpamé, ce militaire a failli empêcher les journalistes de faire leur travail.
Tu ne fais rien ici. Tu te mates à moto, tu pars. C'est fini. C'est bon.
Vous allez me frapper.
On ne peut pas te frapper, ou bien attends, tu te passes qu'on frappe. Tu te passes qu'on frappe ici.
J'allais casser mon affaire.
C'est pas ça mon problème. Je vous ai dit de quitter les lieux.
À Difa, dans la banlieue est de Lomé, plusieurs blessés par balle ont été enregistrés. Le centre de santé du district à court d'intrant se trouve dans l'incapacité de soigner ses blessés. À Bé, des corps habillés ont investi des maisons pour frapper des jeunes. Ces derniers disent ne pas se reconnaître dans ce qui leur sont reprochés. Je ne manifestais même pas, se plaignant un jeune homme le dos enflé suite au passage des forces de l'ordre. Selon des observateurs des droits de l'homme rencontrés sur le terrain, la violence prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale togolaise. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Cour pénale internationale poursuit ses enquêtes au Mali après avoir condamné le principal responsable de la destruction des mausolées à Tombouctou, a indiqué mercredi à Bamako sa procureure Fatou Bensouda. Madame Bensouda s'est rendue ensuite en Côte d'Ivoire. La délégation de l'Union européenne au Gabon a réitéré sa demande auprès des autorités pour ouvrir une enquête indépendante sur les violences post-électorales d'août et septembre 2016. Pour l'Union européenne, faire la lumière sur ces événements est capital pour la réconciliation et la stabilité. Les autorités gabonaises ont dénoncé à plusieurs reprises une ingérence de l'Union européenne. Le leader de l'opposition kényane Raila Odinga a estimé qu'il n'était pas tard pour faire les réformes qui pourraient l'amener à reconsidérer son retrait de la présidentielle du 26 octobre. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
C'est à l'issue d'une rencontre avec le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, que Raila Odinga a évoqué la possibilité de reconsidérer son retrait du scrutin si des réformes sont menées. Pour l'heure, l'opposition a promis qu'il n'y aura pas d'élection le 26 octobre parce qu'elle va organiser des manifestations le jour du scrutin. Le leader de l'opposition, qui n'a toutefois pas formalisé son retrait, dit être conforté dans sa décision par les critiques formulées à l'encontre de la commission électorale par M. Chebukati lui-même. Il a ajouté que la démission d'une des commissaires, Roselyne Akombe, est un aveu de l'inefficacité de la commission. Madame Akombe et M. Chebukati ont émis des doutes sur la capacité de l'IBC à garantir une élection crédible en raison des interférences politiques dont elle fait l'objet. Le président de la commission a appelé M. Odinga et le président Uhuru Kenyatta à se rencontrer en sa présence. Pour M. Kenyatta, le dialogue ne peut porter que sur la manière de conduire pacifiquement l'élection.
Au Nigeria, selon une source militaire, au moins 3 soldats ont été tués dans une embuscade tendue à un convoi de véhicules par des combattants de Boko Haram dans le nord-est du pays. Toujours au Nigeria, 4 personnes ont été arrêtées après l'enlèvement la semaine dernière de 4 ressortissants britanniques dans le sud pétrolier, a annoncé aujourd'hui la police. Les Britanniques, au service d'une organisation caritative chrétienne, ont été enlevés le 13 octobre près de Wari, dans l'état du Delta. Les premiers ministres français et sénégalais ont publié jeudi à Paris une déclaration commune portant sur des accords liés à la délivrance des visas, de collaboration militaire et de projets de développement à l'issue d'une réunion intergouvernementale. Le président français Emmanuel Macron recevra mardi à l'Élysée son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi pendant la visite officielle qu'il effectuera du 23 au 25 octobre. C'est ce qu'annonce ce jeudi la présidence française. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a promis hier d'intensifier la guerre contre les islamistes Shebab au cours d'un rassemblement de milliers de personnes à la mémoire de près de 300 victimes tuées donc dans l'attentat samedi à Mogadiscio. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, s'est dit déterminé à résoudre la question sahraoui lors d'une visite mercredi dans des camps de réfugiés sahraouis en Algérie. Horst Köhler est chargé de relancer les négociations entre Rabat et les indépendantistes du Front Polisario. Il a entamé sa tournée lundi au Maroc, le Maroc qui contrôle depuis 1975 une grande partie de cette ex-colonie espagnole.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement espagnol a fait aujourd'hui un pas de plus vers une suspension de l'autonomie de la Catalogne en accusant le président séparatiste catalan, Carles Puigdemont, de chercher l'affrontement systématique. Le point avec Dilidico.
Le dirigeant catalan Carles Puigdemont avait jusqu'à ce matin 8 heures temps universel pour dire s'il renonçait à déclarer l'indépendance de la Catalogne. Mais il n'a pas répondu clairement à la question posée par le gouvernement espagnol qui voulait savoir s'il avait oui ou non déclaré l'indépendance. Il a plutôt déclaré que si le gouvernement persiste à empêcher le dialogue et poursuivre la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder au vote d'une déclaration formelle d'indépendance. Ce refus a incité le gouvernement espagnol à annoncer qu'il allait prendre toutes les mesures pour restaurer au plus vite la légalité et l'ordre constitutionnel en Catalogne. Ces mesures de suspension de l'autonomie seront examinées samedi lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui devra les transmettre au Sénat en vue de leur validation fin octobre.
Un tribunal de Bagdad a émis un mandat d'arrêt contre Khosrad Rasoul, le vice-président du Kurdistan irakien. Selon le porte-parole du Conseil suprême de la magistrature, le tribunal a pris cette décision à la suite des propos affirmant que l'armée irakienne et la police fédérale dans la province de Kirkuk étaient des forces d'occupation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Etienne Abadou.
Les chefs d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont signé un accord de partenariat stratégique, notamment pour l'exploitation de l'espace maritime entre les deux pays. Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo ont convenu de l'élaboration de dispositions pratiques pour l'élaboration et la gestion en commun des ressources pétrolières et gazières transfrontalières. Le litige maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a été tranché par le Tribunal international du droit de la mer en septembre dernier. C'est en décembre que débutera l'exploitation du champ de gazier de Zohr, découvert au large des côtes égyptiennes il y a 2 ans. Avec ce champ estimé à 850 milliards de mètres cubes, l'Égypte espère redevenir autosuffisante en gaz. L'initiative Afro-Champion a annoncé la création du club Afro-Champion, une nouvelle plateforme d'échange mobilisant les multinationales africaines pour accélérer l'intégration économique. L'objectif est de faire une série de recommandations à l'Union africaine pour la mise en place de la zone de libre-échange continental. C'est le début de la saison touristique en Gambie. Les touristes viennent principalement des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Allemagne ou de Scandinavie. Avec l'agriculture, ce sont les deux moteurs de la croissance de ce petit pays de quelques 2 millions d'habitants.
Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence tout de suite par le nouveau sélectionneur de l'Algérie qui prend ses fonctions.
Rabah Madjer, le nouveau sélectionneur des Fenech, estime que les mauvais résultats de l'équipe d'Algérie sont dus à un problème psychologique. Madjer, qui a pris ses fonctions aujourd'hui, veut redonner confiance aux joueurs après leur élimination du Mondial 2018. Nommé hier à la place de l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé le 11 octobre dernier, Madjer, ancien attaquant vedette de l'Algérie et ancien ballon d'or africain, a pour tâche de remettre sur les rails une équipe nationale traumatisée par cette élimination. On rappelle que c'est le 5e entraîneur en 3 ans pour l'Algérie.
Le Nigeria, justement, qui avait éliminé l'Algérie, son sélectionneur s'exprime ce soir sur VO Afrique.
Après avoir manqué les CAN 2015 et 2017, le Nigeria a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Dans une interview accordée à VOA Afrique, Garnet Rohr revient sur ce beau parcours en éliminatoire et sur les ambitions du Nigeria pour le Mondial 2018. On écoute le sélectionneur des Super Eagles, Garnet Rohr.
L'objectif, c'est un bon comportement de l'équipe. C'est une attitude exemplaire de tous les joueurs. Pratiquer notre football, rester dans la compétition après les matchs de poule. Forcément, on aimerait sortir. Ça va être difficile parce que on sera probablement comme les autres pays africains dans le pot numéro 4. C'est-à-dire, il y aura de très grosses équipes à battre. Mais on est ambitieux. On a une équipe jeune. On va essayer de bien se préparer. Et au-delà du résultat de la Coupe du Monde, c'est faire progresser le football nigérian à travers un jeu plaisant et un jeu agréable.
Voilà, c'était Garnet Rohr, le sélectionneur du Nigeria. Une interview à retrouver sur voafrique.com.
La Ligue Europa ce jeudi, Nicolas.
Le Milan AC qui vient de perdre 2 matchs coup sur coup en Serie A reçoit l'AEK Athènes. Dans l'autre match de ce groupe, l'Austria Vienne doit vaincre Rijeka pour se relancer. Arsenal, de son côté, se rend chez l'Étoile Rouge de Belgrade, solide leader de son championnat. Le Bate Borisov et Cologne tenteront de rester dans la course pour un deuxième billet.
Et ici aux États-Unis, la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
San Antonio a battu Minnesota 107 à 99. Belle victoire d'Atlanta contre Dallas 117 à 111. Sacramento battu par Houston 105 à 100. Phoenix largement battu par Portland 76 à 124. Et puis la Nouvelle-Orléans battu par Memphis 91 à 103. Indiana qui domine Brooklyn 140 à 131. Enfin Washington qui domine Philadelphie 120 à 115.
Bravo. vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, présenté par John Lyndon, mise en onde par Sims Loumami. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Cameroun, où le gouvernement a entamé des consultations dans la zone anglophone de Bamenda, en proie à une crise sociopolitique. Le Premier ministre Philemon Yang a rencontré divers acteurs locaux pour tenter d'harmoniser la solution vers une sortie de crise. Pour un point de vue sur cette démarche de Yaoundé, Eric Manirakiza a joint le porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie, Hilaire Kamga.
C'est une démarche tout à fait inappropriée, inopportune. On va regretter qu'il y ait eu cette démarche qui vient forcément à contre-pied des attentes d'une bonne partie de la population, y compris du leadership anglophone. Parce que ce leadership est aujourd'hui en trois catégories. La première est la réalisation du décret. La deuxième, c'est les élites qui se sont constituées au fil des différents événements qui ont commencé depuis octobre, au rang desquels on trouvera Maître Arbor, Liberté Fontaine et autres, qui sont des leaders qui ont une légitimité acquise sur le terrain. Et en troisième catégorie, c'est les leaders systémiques, ceux qui ont constitué un gouvernement alternatif, un gouvernement clandestin et qui est basé à partir des 16 000 adhérents. Voilà les deux dernières catégories qui sont des personnes susceptibles aujourd'hui de crédibiliser un débat, crédibiliser un dialogue et un dialogue sur la question anglophone. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour dialoguer? Non, il n'est pas trop tard. Sauf que il faudrait que ceux qui ont les rênes du pouvoir à Yaoundé, qui lui appelle et ses hommes, comprennent une fois pour toutes la réalité, les contours et le caractère entre la partie anglophone et la partie francophone. Tant que Yaoundé n'aura pas compris ça, ils vont chercher à résoudre des problèmes qui ne sont pas soulevés par cette population-là. Et malheureusement, si la crise va transiter, les populations de Bamenda et de Boya se braquent elles aussi et deviennent de plus en plus séparatistes et non fédéralistes.
Mais le bras de fer ne profite à personne.
Il est évident que le bras de fer ne profite à personne, bien entendu. Mais la question ne doit pas être posée sur l'anglophone. Ils ont posé dès le départ un problème réel. Mais effectivement, c'est à Yaoundé de donner le là, de pouvoir créer des conditions pour qu'on sorte de cette spirale de violence à la réalité. Ceux qui sont allés dans les rues avec les branches, les feuillages, ne sont pas venus avec des armes. Quand on veut venir les tirer avec des armes, c'est une réponse militaire à une sollicitation citoyenne paisible et pacifique. Donc, c'est à Yaoundé de confier sa position, mais pas une position de dictature, comme celle qui a été menée par M. Yang aussi.
Finalement, comment sortir de la crise?
Nous attendons qu'on propose un cadre de dialogue. D'abord, une discussion directe avec les anglophones pour évacuer d'abord le problème du vivre ensemble avec les anglophones. Et ensuite, maintenant, une discussion globale. Dans le cadre de ce que nous en appelons tous une conférence nationale. Qu'elle soit souveraine ou non souveraine, mais il faut quand même qu'il y ait ce dialogue qui va intégrer les propositions concrètes des anglophones dans un vivre ensemble qui est continuellement maintenant encadré. Qui est continuellement encadré dans le cadre d'une nouvelle conscience qu'on va négocier ensemble. Mais on doit accepter cela comme étant un élément fondamental. Sinon, on risque de se retrouver dans une logique de guerre civile au Cameroun.
Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun. En visite à Abidjan, Fatou Ben Souda, procureur de la CPI, affirme que son bureau s'emploiera à faire traduire en justice les principaux responsables des violences post-électorales. Ces violences avaient fait près de 3000 morts, mais 6 ans après, aucun responsable du camp Ouattara n'a été inquiété. Pour une réaction, Idriss Fall a joint le professeur Christophe Kouamé, président de l'association Civis à Abidjan.
Fatou Ben Souda représente la CPI. Dès qu'elle a annoncé sa visite, beaucoup d'organisations de droits de l'homme étaient, je dirais, heureuses. On s'était tous dit qu'elle viendrait pour quand même annoncer des nouvelles de justice pénale. Fatou Ben Souda, qu'elle a dit que Mme Gbagbo pouvait être jugée ou devrait même être jugée encore par la CPI. Vous savez très bien que depuis janvier à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous le coup de la grève des fonctionnaires. Il y a les mutineries à répétition, il y a même les problèmes d'insécurité avec ce qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Même la rentrée scolaire, il y a eu encore des échauffourées entre le ministère et la FECI. Dans un pays comme ça qui est en train de perdre sa paix relative, je pense que la CPI aurait pu analyser la situation sociopolitique et n'est pas venue mettre du feu, de l'essence, je dirais, sur la braise déjà que la Côte d'Ivoire n'avait pas déclaré que spécialement Mme Gbagbo qui a déjà été jugée par un pays souverain qui est la Côte d'Ivoire, qu'elle vienne faire cet effet d'annonce-là, ça n'a eu qu'un effet contraire sur les populations.
D'autant que jusque-là, il n'y a aucun partisan du camp de Ouattara qui a été poursuivi par la CPI, 6 ans après les faits.
Effectivement, tous les 2 rapports que nous avons eus, le rapport de la CDVR qui est sorti l'année passée, et le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été instruite par Mme Badiou sous la houlette du président Ouattara, les 2 enquêtes et tous les rapports en général de toutes les ONG internationales sur la Côte d'Ivoire montrent que les 2 parties en conflit ont posé des actes d'injustice, d'exactions et de crimes contre l'humanité. Nous sommes surpris qu'après 6 ans, c'est un seul camp qui est jugé. Et encore que la Côte d'Ivoire, en tant que pays, a mis en place un système judiciaire assez quand même fiable pour les moyens qu'on a eus juste après la crise et a jugé Mme Gbagbo, nous ne comprenons pas que, la CPI vienne spécifiquement réclamer Mme Gbagbo, et 2, que ça se fasse dans une situation où la paix relative que nous avions eue quand même de 2011 à aujourd'hui est mise à rude épreuve avec les discussions, avec le problème des élections de 2020 qui s'est invité dans le débat public. Nous trouvons que c'est gauche, qu'en voulant faire la justice, on touche encore à la vie publique de la Côte d'Ivoire qui est actuellement, je dirais, en turbulence une.
Le professeur Christophe Kouamé, président de l'association Civis à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Une association de handicapés moteurs travaillant dans le domaine du transport rencontre des difficultés pour effectuer son business transfrontalier au Tampomois depuis la décision des autorités de la brasserie et limonaderie de fermer le commerce des boissons avec la RDC voisine. Notre correspondant Christophe Nkurunziza les a rencontrés à Bujumbura.
À quelques centaines de mètres de la frontière avec la République démocratique du Congo, se trouvent les bureaux de l'association des handicapés de transport dans la zone de Gatumba, province de Bujumbura Oral. Vendredi dernier, qui était férié avec le 56e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Bassoré, certains membres de cette association avaient pris rendez-vous. Apparemment très détendu et à l'aise, Jean-Richard Boutoui, qui a 6 enfants, indique que depuis que le commerce des boissons a été fermé avec la RDC, la vie est devenue intenable.
Nous vivons aujourd'hui une vie difficile comparée à celle que nous menions quand l'on faisait le commerce de boissons vers la RDC. Le changement se remarque dans la façon de vivre, de manger. Il y a ceux qui mangeaient 2 fois par jour, aujourd'hui qui ne mangent qu'une seule fois. Il est vraiment difficile de faire vivre la famille. Je pouvais avoir comme 20 000 francs burundais d'intérêt journalier. Je pouvais faire une économie de 5, voire 10 000 francs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Dieu donné le hasard, 40 ans, élu père de 5 enfants, il affirme que la situation est devenue critique pour sa vie de tous les jours.
Depuis l'arrêt de notre commerce avec la RDC, celle qui peut être mon témoin, c'est Maman Kanda, le bailleur de ma maison. Aujourd'hui, j'ai toujours un retard d'un mois de non-paiement du loyer. Avant, je payais tout avant que le mois ne se termine. J'avais une avance de moins d'un mois. Aujourd'hui, je fais le métier de soudure. Mais je ne gagne seulement que l'argent pour la nourriture et les cahiers pour les enfants. Quand j'allais en RDC, c'était très facile, car je gagnais mieux ma vie. Et si les enfants avaient besoin du matériel scolaire, je faisais seulement un coup de téléphone et les enfants avaient le matériel scolaire facilement.
Il est vrai que certains membres de cette association des handicapés ont étudié des métiers chacun personnellement. Le président de l'association demande aux bienfaiteurs de les aider. Monsieur Bavo.
Nous avons 22 membres dans notre association. Nous avons des femmes, des hommes et des jeunes. Nous pouvons franchement affirmer que nos membres sont devenus pauvres depuis que la Brarudi a fermé le commerce des boissons vers la RDC. Tous les handicapés n'ont plus de travail. Il est vrai que de nombreux handicapés ont appris un métier. Ils n'ont pas de capitaux suffisants pour démarrer un projet de leur choix. C'est vraiment difficile pour les handicapés aujourd'hui.
Avec la sécurité qui prévaut au sud Kivu, les handicapés demandent sans cesse à la brasserie et limonaderie du Burundi de libéraliser le commerce des boissons entre le Burundi et la RDC pour permettre aux handicapés de refaire leur commerce des boissons entre les deux pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtrie comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale s'est-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Chebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Ouverture hier au Caire, en Égypte, d'une conférence de 3 jours sur l'avenir des villes africaines à l'ère des nouvelles technologies. Voici un reportage d'Edouard Iranian rendu par Abdourahman Dia.
Des participants motivés par l'innovation, la création et le partage d'idées novatrices se sont donné rendez-vous à l'Université francophone du Caire. Leur objectif, faire profiter les avancées technologiques à un continent d'1,2 milliard d'habitants. Le patron d'AfriLab Nigeria, organisateur de l'événement, estime que la technologie est le moyen le plus efficace pour briser les frontières artificielles. Michael Oluwagbemi.
We need to start using technology.
Il est temps qu'on utilise la technologie pour faire tomber les murs qui nous séparent. La technologie offre une solution unique et ne connaît pas de frontières.
Le rôle des universités dans cet univers virtuel est l'un des sujets brûlants de la réunion. Ces institutions doivent faire mieux dans l'usage du savoir. Idriss Bello, de la Sierra Leone, estime que les universités ont du mal à capitaliser sur les atouts intellectuels dont ils disposent.
Nous n'arrivons pas à créer le lien entre ce que nous apprenons dans les écoles et les problèmes que nous avons avec l'écosystème. Nous avons des milliers de projets qui dorment dans les bibliothèques, dans les livres qui ne sont pas commercialisés ou ne sont pas utilisés dans la résolution de nos problèmes dans la vie réelle.
Malgré les efforts pour améliorer la qualité de près de 250 universités, aucun pays africain n'était sur la liste de l'indice mondial de l'innovation l'an dernier. La participation des femmes dans le développement économique et le futur technologique de l'Afrique est un autre sujet de préoccupation. Florence Toffa est une femme entrepreneur. Elle déplore la stigmatisation dont elles sont victimes.
Pour la plupart des femmes que j'ai rencontrées, le principal défi a toujours été le choix entre la carrière et la vie de famille à la fin des études.
AfriLab veut installer 10 de hubs technologiques à travers le continent pour connecter les Africains aux idées novatrices. Et comme l'a dit son fondateur, pour encourager les jeunes à être des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RMC à 20h temps universel. Au menu, African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Sims Lumami. Rob McLean était à la console. Présentation John Linden. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook sur VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Juste derrière moi, Washington Forum avec Jacques Aristide.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.